Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous. C'est l'heure des GG, c'est l'heure des grandes gueules. Vous allez prendre la parole au 32-16 pour commenter avec nous ce qui s'est passé partout en France hier, à savoir la mobilisation, à savoir aussi les violences. Donc, vous avez des choses à nous dire, on a des choses à se raconter, bien sûr. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Elina Dumont est avec nous, elle est intervenante sociale. Bonjour Elina.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Étienne Liebig, éducateur. Bonjour mon cher Étienne.
Bonjour chers amis.
Stéphane Manigold, restaurateur et de la partie aussi aujourd'hui. Bonjour Stéphane.
Salut les GG, salut à tous, salut les artisans, salut la France qui travaille. Vous n'êtes pas seul et vous allez le voir le long de cette émission.
Alors justement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le regain de mobilisation. Regain de mobilisation partout en France hier contre la réforme des retraites. À votre avis, est-ce que ça va s'amplifier? Est-ce que ça va durer? 32-16 pour le dire au GG.
RMC, les grandes gueules.
On n'a pas envie de s'arrêter là, quoi. C'est le moment où il faut te donner, en fait. C'est montrer que nous, on ne va pas s'essouffler. On ne va pas être les premiers à s'essouffler. Et c'est mettre aussi une certaine pression à l'État, aux forces de l'ordre, etc. On ne va pas lâcher l'affaire, tout simplement.
On veut maintenir la pression. On veut fatiguer la police. On est là tous les jours avec toute cette jeunesse qui nous a rejoints.
Moi, je pense qu'il faut continuer. Même avant le 28, il faudrait qu'on fasse des manifestations, des grèves tous les jours. Tous les soirs, on est dans la rue, on est en manif sauvage. Voilà, on essaye que, les gens entendent qu'on a des choses à dire, qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. C'est pas avec une journée de mobilisation par semaine qu'on arrive à leur faire mal, malheureusement.
D'après le ministère de l'Intérieur, on a eu plus d'un million de personnes qui ont défilé hier dans 300 villes de France.
Oui, Emmanuel Macron a perdu l'occasion de se taire. Il n'aurait pas dû suivre les conseils de tous ses politiques, conseillers, journalistes qui lui conseillaient de parler parce que son intervention couplée avec l'utilisation du 49.3, visiblement, ça a galvanisé les manifestants. Et il y avait donc plus de monde que prévu, notamment à Paris. À Paris, c'était d'ailleurs un record de mobilisation. C'est la plus grosse manif depuis le début de ce mouvement social contre la réforme des retraites. Il y a eu aussi des records dans plusieurs villes de province, notamment à Rouen. L'intersyndicale est donc sur un regain de ferveur et donc appelle à une 10e journée de mobilisation qui aura lieu mardi prochain, assez rapprochée pour pas que le feu retombe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a, on va sur un regain? Est-ce que ça va durer? Ou est-ce que c'était hier, parce qu'on était au lendemain de l'intervention de Macron et juste après le 49-3, l'occasion de marquer un désaccord?
Rebond de la mobilisation, 32-16 pour en parler avec nous. Peut-être que ça vous a décidé hier Etienne, à descendre dans la rue. Mardi prochain, à descendre encore manifester, peut-être pour la première fois. C'est à vous de nous le dire, Étienne.
Alors, moi, à cette même place, la semaine dernière, j'avais prévu, sous l'hilarité générale d'ailleurs, que si les jeunes se mêlaient aux manifestations, et donc pour d'autres raisons plus larges que les questions propres de retraite, parce qu'effectivement, ils ne sont pas directement concernés, bien qu'ils le soient néanmoins, mais plus sur des questions de mécontentement général et de précarité, bien sûr, ça pouvait durer. Je pense que pour que la manifestation dure, pour que la lutte dure, il faut effectivement que ça s'étende à autre chose en objet de lutte que purement la question des retraites. C'est le cas de toutes les luttes qui ont été engagées depuis le début.
Pour te dire quoi alors finalement?
En fait, effectivement,
de la réforme des retraites, c'est quoi?
Au-delà de là, on voit bien qu'il y a un tas de problèmes aujourd'hui dont le gouvernement n'est pas responsable systématiquement. Je veux dire, mais une espèce de mécontentement du fait que les gens ont du mal à y arriver, qu'on a l'impression que les gens, qu'on travaille et qu'avec le fric qu'on gagne, on n'arrive plus à remplir son frigo, etc., etc. Donc, je veux dire, il y a un amoncellement de problèmes dont le gouvernement n'est pas toujours responsable. Et d'ailleurs, il y a des pays qui s'en sortent encore moins bien que nous, comme l'Angleterre, pour ne pas la citer.
Donc, des pays où il y a aussi des manifestations sur ces sujets-là.
En Angleterre, c'est très chaud.
En Allemagne aussi, en ce moment.
La réalité, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de mécontentement général, que ça s'est catalysé. Et donc, le président, qui est un mec a priori jeune, qui est a priori pas idiot et a priori un politique averti, a multiplié les erreurs de communication, a multiplié les erreurs de politique. Et on se dit, mais pourquoi il a fait ça? Et mais, effectivement, il aurait voulu foutre le feu, qui s'y serait pas mieux
mais dans,
pris.
Dans la rue, tu sens que les gens sont prêts à repartir pour une dixième journée, alors, une onzième, une douzième.
Alors les gens, et justement, les gens, ils ont maintenant ce sentiment qu'avec, c'est ça qui est le plus déplaisant. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord, hein, mais les gens ont ce sentiment que de toute façon c'est mort avec ce gouvernement-là et que il faut le faire tomber.
Il faut le faire tomber. Hein. Elina, du moins.
Alors,
moi je suis pas d'accord.
Alors moi je dis oui, ça va durer. Moi je vais vous parler de ma base et ma base elle est plus nombreuse que celle de Macron. Hein, je peux vous le dire. Hein. Écoutez, déjà avec les 62 ans retraite, les gens n'arrivent même pas à 62 ans. On parle des métiers des plus pénibles. Hier, j'entendais Aurore Berger dire « Mais cette réforme des retraites va profiter aux métiers les plus pénibles. » C'est complètement faux. Je peux vous assurer, moi qui travaille avec, parce que je suis intervenante auprès des plus précaires, des familles, il y a de plus en plus d'expulsions. Il y a plus d'expulsions avec des gens qui travaillent. Mmh. De plus en plus de retraités à la rue, malgré qu'ils ont travaillé toute leur vie. Mais comme le logement est tellement cher, il suffit que la femme devienne veuve, et hop, à la rue. Il y a de plus en plus de gens qui vivent dans leur voiture, qui travaillent. Moi, la majorité des gens que je connais...
Mais ils vont manifester, tous ces gens-là, ou pas?
Alors, parce que ceux qui peuvent, oui. Ça. Ceux qui peuvent, d'accord. Oui. Et... Donc, si avec la retraite à 62 ans, il y a tout ce que je vous raconte, oui, je vois pas comment, avec 64 ans, pour moi, on va droit vers la précarité. Et je voudrais juste rajouter un truc. J'ai entendu plusieurs élus du gouvernement, voire ministre. Certaines personnalités, évidemment, qui comprennent rien, qui veulent faire des reportages sur la pauvreté, mais qui n'y connaissent rien, dire « mais on n'est pas obligé d'être éboueur toute sa vie ». Mais moi, je vais vous dire, il y a des personnes, c'est le seul boulot qu'ils ont pu avoir dans leur vie. C'est comme auxiliaire de vie aux familles. Moi, je connais des femmes, c'est le seul boulot qu'on leur a proposé. Et moi, je connais des gens qui travaillent dans des centres de formation, mais très connus. Et ben quand ils demandent, parce qu'ils sont fatigués, être formateur pour certaines formations auprès de publics difficiles, ça fatigue énormément au bout de 20 ans. Et ben quand vous demandez une formation par le CIF, hein, c'est ça, hein, auprès de votre employeur, et ben si l'employeur il a envie de vous dire non, et ben il vous dit non. Et ben voilà.
Pendant 5 ans.
Voilà, mais c'est ça la réalité d'aujourd'hui.
Alors Stéphane, sur cette mobilisation très importante dans plusieurs villes, notamment à Paris hier.
Moi je considère que...
On parlera de la violence après. Hein.
Évidemment, le droit de grève, je le répète, c'est un droit absolu, il faut le préserver, les gens ont le droit de manifester. Mais je crois que les débats ont eu lieu. Et la question qu'on peut se poser...
La question qu'on peut
valablement se poser, c'est sommes-nous toujours dans une démocratie? Si l'opposition souhaite entendre une réponse unique à une question qui est posée à la fois au Sénat, ensuite à l'Assemblée nationale, puis remis par un 49-3, où au fond, elle engage sa responsabilité. Mais dans ce cas-là, je suis désolé, Elina, que les députés qui n'avaient pas le courage, et je vais rester poli, de voter contre cette réforme des retraites, aient à minima le courage de voter la motion de censure. Donc à un moment, je veux bien qu'on parle de Macron, qu'on dise « Macron, c'est un nul, machin ». Mais je suis désolé, la démocratie, elle a parlé. Et donc à un moment, quand la démocratie, elle parle, est-ce qu'on doit continuer la chienlit ? Est-ce qu'on doit continuer cette chienlit qui aujourd'hui affaiblissent les commerçants, qui affaiblissent les salariés ? Parce que derrière des commerces, il y a des salariés. Et moi, je suis désolé, quand j'ai des employeurs qui m'appellent encore hier, qui me disent...
Ouais, mais on en parlera tout à l'heure des commerçants, mais là, simplement sur la mobilisation.
Sur la mobilisation,
est-ce qu'elle va s'amplifier ?
Tu dis aux gens que le match est terminé.
Non, il n'est pas terminé, il reste 3 solutions. Il n'est pas terminé. Mais en tout cas, c'est pas dans la rue qu'il va se terminer.
Les trois solutions,
c'est la première, comme Chirac l'avait fait. Ça a été voté. Il a retiré, par exemple, la voix.
Ça continue à manifester, alors?
Non.
Bah si, pour l'obtenir.
Non, je ne le pense pas. Deuxièmement, il me semble que le Conseil constitutionnel a été saisi.
Oui, absolument.
Donc,
il
le Conseil constitutionnel,
pour rendre sa copie.
Il lui reste un mot total, mais il lui reste 3 semaines, effectivement. Et puis dernière solution, c'était de voter
le RIP. T'as dit le RIP aussi.
Bah, pardon, le RIP, oui, excuse-moi. Oui, alors, le réforme d'initiative populaire. Mais si, c'est facile. Mais... Attends. Moi, quand j'entends Ilina, et j'entends ce que tu dis, mais quand tu dis la majorité, elle est plus forte chez toi que chez Macron. Tu opposes déjà, je comprends pas ma trop base. Cette vision, mais ta base. Mais si cette base, elle est plus forte, moi je le dis, et je le dis à tous ceux qui manifestent, allez, justement, mobilisez-vous pour le RIP, mais pas dans la rue, pas en affaiblissant le pays, c'est seulement 10%.
Dans une précision sur le RIP, les gens ne peuvent rien, les gens peuvent rien faire sur le RIP parce que déjà, il faut que le Conseil constitutionnel donne son autorisation. Non. Et il y a des chances que ça ne passe pas parce que il faut répondre à des critères très précis. Les constitutionnalistes sont assez pessimistes et pensent que le RIP.
La démocratie fonctionne bien.
Non, donc voilà. Donc le RIP, c'est terminé. Je termine sur l'autre chose. C'est, il faut quand même rappeler qu'il n'y a jamais eu de vote à l'Assemblée nationale sur ce texte. Il y a eu une motion de censure, mais la motion de censure, elle n'était pas sur le texte, elle était sur le gouvernement. Une motion de censure, tu censures le gouvernement. Voilà. Et ça a été rejeté. Voilà,
c'est Stéphane, je veux juste te dire, non, tu as raison, la façon dont tu présentes, et je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que il faut qu'un gouvernement et qu'une assemblée puissent voter des textes qui sont impopulaires. Et qui ne sont pas appréciés. Ça nous aurait servi, notamment au moment de la guerre, si on avait plutôt pas donné les droits à Pétain, alors que c'était très populaire, puisqu'on disait vous n'entrerez pas en guerre si effectivement on s'allie avec l'Allemagne. Donc il faut que l'Assemblée ait le courage de voter des lois contre le peuple. Mais là, je trouve, si tu veux, sur une loi, sur un texte aussi important qui met en jeu vraiment chacun des travailleurs de ce pays, même chacun des citoyens et citoyennes de ce pays. Je trouve que Macron et le gouvernement se seraient honorés sur le plan purement de l'histoire démocratique de notre pays de dire, bon, l'Assemblée vote contre, puisqu'il y avait un risque effectivement, donc d'aller jusqu'au bout du vote, de dire, les députés ne sont pas d'accord avec ce texte.
Ils sont pas d'accord,
J'en prends note. Oui, d'accord, je suis d'accord avec
toi. Ils ont pas de courage.
Il y a de la lâcheté. Mais la lâcheté, ça fait partie de la démocratie, si je puis me permettre. Il y a de la lâcheté des hommes. Je suis d'accord avec toi, puisqu'il y en a beaucoup qui ont retourné leur veste pendant le truc. Je suis d'accord. Mais aller jusqu'au bout du vote, dire bon, voilà, le texte n'est pas accepté démocratiquement par cette Assemblée, je le retire, je le resoumettrai après discussion dans 6 mois. Ben, je trouve que là, il y aurait eu quelque chose qui aurait été acceptable, entendable. Là, si tu veux, on a l'impression, comme ça met en jeu chacun d'entre nous, que ce texte aussi important a été imposé au forceps. Ah. Et qu'on a l'impression de s'être fait rouler dans la farine.
Le paradoxe, c'est que c'est pas un texte si important.
Non.
Je pense que c'est quand même une réformette qui ne règle pas grand chose.
Ça change
bien que le système par partition est déséquilibré et que sans doute dans quelques années, il va falloir une
fois de plus.
On a réglé le problème jusqu'en 2030.
Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est que Emmanuel Macron a quand même mis des millions de gens dans la rue, créé une situation de crise, de violence, et on va en parler dans un instant, et de tension, pour une petite réforme. Tu te dis,
oui, mais
Attends, Elina, on va passer par le 32-16. Écoutez, Alexandre. Bonjour, Alexandre.
Bonjour à vous, les GG.
28 ans, du côté de la Manche, Alexandre. Est-ce qu'à votre avis, ce regain de mobilisation est significatif? Est-ce qu'il va continuer, même s'amplifier, selon vous?
Il va s'amplifier. En fait, là, je ne sais pas si tout le monde a une bonne mémoire, mais on est en train de revivre l'histoire de la Révolution. C'est-à-dire que pour faire simple, il n'y a pas très longtemps, bah oui, ça peut peut-être vous faire souffler pour certains sur le plateau ou autre chose, mais malheureusement, on a oublié l'histoire, on l'oublie. Quand le roi, en fait, on l'a été le chercher pour aller lui couper la tête, c'est parce qu'il avait répondu, puisque vous n'arrivez pas à manger du pain, vous n'avez qu'à manger de la brioche.
Vous voulez couper la tête de Macron?
Non, quand même.
Non, attendez, alors attendez.
Il n'a pas dit ça.
Attendez, écoutez-moi 2 secondes, s'il vous plaît, vous êtes à l'antenne tous les jours, nous on n'est pas à l'antenne, on est sur le terrain, on est dans la rue, d'accord? Donc moi, il y a un moment donné, j'aimerais juste que vous compreniez certaines choses. C'est que là, ça fait 6 ans où on est méprisé avec ce président, en l'occurrence. On est méprisé, on est traité de Gaulois réfractaires, qu'on ne comprend rien, qu'on ne connaît rien et qu'on ne sait rien. Alors, il y en a certains, je le sais, parmi certains sur votre plateau, qui disent « Mais oui, mais qu'est-ce que vous avez à nous proposer pour la réforme de la retraite ?» Eh ben, qu'est-ce qu'on a à vous reposer? Je sais pas, la retraite par capitalisation, si jamais ça vous intéresse.
Ah, mais bon coup, alors moi je dis bon coup, hein.
Non, mais attendez, sinon.
Je suis pas sûr que les Français soient très favorables.
Attendez 2 secondes, s'il vous plaît.
Oui, allez-y, Alexandre. Allez-y.
Il y a un moment donné, ce que j'essaie juste de vous faire comprendre, c'est que là, le feu a pris. C'est-à-dire que la réforme des retraites, effectivement, c'est peut-être juste une réforme comme ça, anodine par rapport à tout un tas d'autres problèmes qu'on a. par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au pouvoir de la crise énergétique, par rapport à tout un tas d'autres milieux qui sont tous y compris dedans. On est tous dans la même galère. Sauf que là, le feu a pris. Et il manque juste une étincelle. Je vous dis juste qu'à un moment donné, j'ai vu des images, moi, sur les antennes de BFM ou autre chose, où il y avait quelque chose qui était écrit. Et ça m'a surpris que les gens ne se soient arrêtés que sur les mannequins de Macron, de Borne ou autre chose. Il y avait quelque chose qui avait été écrit sur plein de murs à Paris. L'ombre de la guillotine arrive. Ça veut juste dire, à un moment donné, que vous la avez colère. Des gens dans la rue qui sont prêts à y retourner, qui sont prêts juste à vous faire comprendre une chose. On va prendre les armes et on va vraiment venir.
Attendez, Alexandre, parce que, donc, hier, ça veut dire que vous avez manifesté hier, si je comprends bien.
J'ai pas pu aller manifester parce que j'ai une grosse crève et j'ai pas pu aller au travail. Bon.
Mais est-ce que vous allez y aller, par exemple, mardi prochain?
Je peux y aller, oui, mardi prochain. Alors, par contre, celui qui dit que la révolution attendra, je vous trouve un peu hautain et un peu méprisant vis-à-vis.
Non, mais je me permets de faire une vanne.
Alexandre,
voilà, attendez, je sais que tout le monde est tendu, mais j'espère qu'on peut avoir un peu de recul. Vous me dites que j'ai une crève, j'ai pas manifesté, voilà, ça m'amuse. Et tout,
Alexandre, dis, Alexandre.
Alexandre, chacun ses problèmes aussi.
Très sérieusement, Alexandre, excuse-moi.
Attendez, laissez parler Alexandre.
C'est Truchot qui vient de parler.
Oui, mais là, c'est Étienne.
Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 mois, je vous ai appelé sur votre antenne en vous disant. Je suis en train d'être bloqué par rapport à une grève où ça faisait 8 heures que j'étais bloqué dans ma voiture. Et il y a pire qu'une colère qui est en train de se réveiller, mais il y a une révolution qui va arriver. Il y a 2-3 mois, je vous ai appelé par rapport à un même sujet vis-à-vis d'Emmanuel Macron et vis-à-vis de son discours. Je vous avais appelé, je vous avais déjà signalé qu'il y avait une colère qui était en train de grandir. Bah là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir que le président et certaines personnes commencent à écouter les citoyens.
Parce qu'il
ne faut pas oublier une chose, le président,
non, une
il
partie
est
des
président.
Citoyens. Attends.
Attendez, une partie des citoyens, il y a 70% des gens qui
sont plus Alexandre
Alexandre, c'est facile.
Attends,
dans ce
non, excuse-moi, j'aimerais répondre à Alexandre. Alexandre, par rapport à ce que vous dites sur l'histoire de la France et de la Révolution, je rappelle quand même que oui, si on fait une comparaison. D'abord, ceux qui ont bénéficié de la révolution, c'est pas le peuple, hein, mais c'est bien les bourgeois. C'est l'invention même de la bourgeoisie. C'est-à-dire, c'est au moment où il y a eu la révolution, il y a eu une récupération de la bourgeoisie immédiate qui s'est pas laissée du tout impressionnée par cette révolution populaire. Premièrement, et deuxièmement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que malheureusement, je suis d'accord avec vous sur le fond et la forme, c'est que qui va récolter les fruits de cette révolution à venir? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est les gens, les classes populaires dans la rue, ou est-ce que c'est Le Pen et justement toute cette bourgeoisie qu'elle défend? Moi, je pense plutôt qu'on est exactement dans cette image-là. C'est-à-dire qu'on a un risque de récupération. Ah, on a un risque de récupération par la droite et l'extrême droite de tout ce mouvement.
Je suis sûr que Marine Le Pen défend la bourgeoisie.
En tout cas, Alexandre, on a entendu.
Il y a plus qui vote Le Pen que Mélenchon.
Évidemment, on a entendu. Oui, fait semblant,
Marine Le Pen défend son portefeuille, son compte bancaire. Voilà,
oui, mais enfin, pardon, mais Marine Le Pen, aujourd'hui, les ouvriers majoritairement votent Le Pen avant de voter Mélenchon.
Mais Marine Le Pen qui accepte le bordel.
Mélenchon, c'est un vote plutôt bourgeois.
Qui accepte le bordel parce que c'est son fonds de commerce. Refuse d'être première ministre, hein, quand même dirige la France, apporter des solutions, mais elle dit moi en 2027
je vais là.
Non, mais, d'accord, mais elle l'a pas proposé.
Dans tous les cas, on a entendu la colère d'Alexandre en disant voilà cette colère elle est là, elle gronde, elle est forte, elle peut aller très loin, il est motivé. On va continuer la discussion dans un instant. Alexandre nous appelait de la Manche, on va aller dans les Hautes-Pyrénées avec Alain qui est retraité. Il a participé à 7 manifestations déjà. Est-ce qu'il croit au rebond, à l'amplification? Et puis tout à l'heure à 10h on parlera des violences. Mais là on est sur la mobilisation avec vous au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec les grandes gueules. On commande ce lendemain de mobilisation. Alors les violences sera tout à l'heure à 10h. On va en parler ensemble avec vous au 32-16. Condamnation, aujourd'hui, est-ce qu'on franchit un cap dans la violence qui peut rebuter? Ou alors, et comment je sais qu'on peut compter sur vous au 32-16? Est-ce que vous y avez participé? Peut-être qu'on peut avoir un témoignage, vous comprenez les casseurs, c'est au 32-16 qu'on peut en parler avec vous dans les GG. En attendant la mobilisation, le regain de mobilisation, qu'en dites-vous? Est-ce que c'est reparti? Est-ce que ça peut durer? Alain nous appelle des Hautes-Pyrénées. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Vous avez participé à 7 manifestations, vous, c'est ça hein, Alain?
Exactement.
Dont celle d'hier?
Dont celle d'hier.
Vous étiez où? Vous avez manifesté où hier?
Alors moi j'habite Tarbes, donc d'accord. C'est une ville de 50 000 habitants.
Oui.
Je peux vous dire qu'on a atteint des chiffres que l'on n'a jamais atteints jusqu'à jusqu'à maintenant, quoi. Même dans les manifs de 96, jamais on a eu ce chiffre-là. Il y a eu énormément de monde.
Comment vous l'expliquez, ce rebond?
Alors, la grosse différence, bon, déjà, il y a eu les propos que M. Macron a tenus l'autre jour, les propos télévisés qui, on peut pas, comme on dit, il a remis de l'huile sur le feu. Mais j'ai senti, par rapport aux autres manifestations, un engouement que je n'avais pas ressenti jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on est dans un moment bascule où le gouvernement, je ne dis pas qu'il va céder, mais on sent que le gouvernement est prêt à céder et les gens sont prêts, au point où on en est, sont prêts à aller jusqu'au bout. Voilà. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a un élan de par rapport à l'entourage que j'avais autour de moi dans la manifestation, tout ce qu'il y a, les écoutes, les parlers, le monde qu'il y avait. Pour moi, je sens que c'est reparti. Il y a une période là de 15 jours avec le RIP qui doit donc tout ce qui vient. Donc jusque là, déjà, moi, je suis sûr que ça tiendra. Il y a des mouvements qui sont prévus. Bon, il y a la journée de manifestation mardi.
Vous allez y retourner, vous aussi, Alain? Vous y serez de nouveau?
Pas de problème. Oui, j'y serai. Il y a des mouvements qui sont prévus demain matin, qui sont déclarés. Donc, j'essaie de participer le maximum à tout ce qui peut se passer, tout en restant dans des mesures honnêtes. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des débordements. Et comme je dis, moi, ma pensée, le débordement, ce n'est pas nous qui le voulons, c'est le gouvernement. Et je ne pense que je ne suis pas le seul à le penser.
Et le fait que, du côté sans doute du gouvernement, on joue le pourrissement, à la fois parce que les violences peuvent détourner une partie de la population de ce mouvement social, on peut en avoir peur, et puis le pourrissement parce qu'au bout d'un moment, ben, on ne peut pas non plus faire grève tout le temps, on ne peut pas manifester tout le temps.
Exactement. Alors bon, moi, j'ai appris par pas mal de gens qui travaillent, que je connais, qui font des grèves tournantes, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas les faire toutes, mais qu'ils les font. Dans la durée, que vous dire d'autre, le gouvernement, oui, il joue toujours sur le pourrissement. Et le fait qu'il y ait eu ces débordements, ces gros débordements qu'il y a eu hier, ça joue un peu en leur faveur. Mais par rapport aux Gilets jaunes, on disait de suite, on se met la population à dos. Et on se rend compte que finalement, ben les gens, bon c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est Paris, hein, mais les gens donnent quand même encore raison aux manifestants et aux mouvements, puisque ça a quand même pris une ampleur hier.
Alain,
on a atteint
non mais c'est vrai, même les gens qui manifestent pas, ils sont quand même, ils soutiennent quand même les grévistes.
Alain, pardon, mais, vous êtes retraité. Deux questions. Vous êtes parti à la retraite à quel âge et vous avez quelle activité? Et deuxième question, pourquoi au fond vous manifestez?
Alors, moi, je suis parti à 63 ans et demi. Je travaillais depuis 1977 et je peux vous dire que je suis resté parce que j'ai fait bâtir assez tard. Je n'en pouvais plus. Je n'aurais pas continué un an de plus. Et encore, j'ai continué. J'ai bénéficié d'une surcote de 7,5%. En partant, comme on dit, avec les 64 ans, non seulement j'aurais dû faire 6 mois de plus, je n'aurais pas bénéficié de cette surcote et ça m'aurait fait 120 euros de moins par mois. Donc je vois finalement déjà rien que par rapport à ça, je suis pas d'accord sur la prolongation de l'âge de durée de la retraite.
Oui, mais quand vous êtes parti par exemple à la retraite, l'âge légal c'était 60 ans, vous êtes parti à 63 ans.
62.
Non. Alors, vous êtes parti à combien de temps? Ça dépend.
Il y a 6 mois, il est parti.
Ah, il y a 6 mois.
Suis parti il y a un an, à 63. Là, je vais sur 65.
Donc vous étiez déjà au-delà de l'âge légal. Ah
oui. Voilà, j'étais au-delà de l'âge légal.
La majorité des gens, c'est comme ça comme ce monsieur.
C'est la moyenne d'ailleurs, c'est 63.
Il y en a même 67 ans, 68. Mais c'est la santé. En fait, tu sais, cette réforme des retraites, elle va coûter très cher à l'assurance maladie. Je te le dis, moi.
Oui, mais je suis vraiment d'accord et je pense que là où tous les syndicats et tous ceux que j'écoute, les opposants notamment à la réforme des retraites, les opposants presque à tout, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas de proposition qui sont en face. Et je pense qu'on aurait dû, par exemple, mettre un âge de départ à la retraite à 64 ans, mais pour les plus hauts revenus. Pas forcément pour les bas revenus, parce que les bas revenus, c'est effectivement, et je te le concède, ceux qui sont les plus cassés en fin de carrière. Celui qui travaille dans un bureau qui gagne 4 000, 5 000 euros par mois, c'est pas grave qu'il parte à 64 ou à 65 ans, ça va pas. Et après, tu trouveras certainement des gens qui te diront, oui, mais moi, vous comprenez, le stress, le machin. Non, à un moment, faut être factuel. Et le problème, c'est que la société s'est fracturée, que les leaders syndicaux, les corps intermédiaires, il y a aussi un problème de transparence de la part de ces leaders syndicaux, et j'en fais partie. Tu vois, par exemple, moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'un leader syndical doit être soumis à la haute autorité de la vie et de la transparence publique. Parce qu'il y en a ras-le-bol de certains, je dis bien certains leaders syndicaux, qui, au nom de l'intérêt général, ce qui est complètement faux, appellent à manifester. C'est juste pour certains préserver leur prix carré et leur business. Et moi, je trouve que c'est absolument scandaleux. Oui, donc, enfin, à un moment, on ne trouve pas des solutions. Les corps intermédaires ont raté. Le rendez-vous, et c'est lamentable.
T'es assez malhonnête parce que.
Pourquoi malhonnête?
Si on doit.
Moi, malhonnête.
Si on doit.
Mais c'est eux qui sont malhonnêtes.
Si on doit vitupérer des gens, c'est plutôt tous ceux qui ont. Qui était à un moment pour cette... Toi, tu n'en fais pas partie d'ailleurs, et ça t'honore. Tous ceux qui étaient pour cette loi avant il y a un an et qui ont retourné leur veste pendant le processus parce qu'ils se sont aperçus que le peuple, que les Français grosso modo étaient contre à 70% et ils se sont dit oh putain on est en train de se mettre à dos le peuple français et ils ont retourné leur veste, c'est-à-dire qu'ils se sont pas comportés comme des politiques mais comme des trouillards et là je trouve, et alors que les leaders syndicaux les leaders syndicaux dans leur grande majorité, même leur ensemble, se sont toujours opposés à cette loi. Alors, ils n'ont pas retourné leur veste, eux.
Ah non, mais Bruno Retailleau qui dit qu'il faut accélérer la réforme des régimes spéciaux, mais tu prends le Sénat, c'est le temple des régimes spéciaux. Enfin, c'est scandaleux. Donc, moi, je suis désolé. On peut être un opposant, casser, c'est non. Aller emmerder les commerçants, c'est non. Proposer, c'est oui. Et le problème de cette contestation, c'est qu'il n'y a pas de proposition. Ça ne bosse pas. Ça s'amuse, ça danse, ça brûle, ça casse.
Si, non, mais. Propositions.
Attends, tu dis qu'ils sont pas toujours très crédibles.
Mais non, c'est
parce
pas
que
crédible.
Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut revenir à 60 ans, non, il y a sérieusement
là, alors, on va écouter Romain Aubin sur le retour après Alain, retraité des Hautes-Pyrénées. Je salue. Exactement. On va aller du côté de l'Isère retrouver Romain, qui est infirmier. Bonjour Romain.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que vous sentez ce regain de mobilisation, même peut-être d'amplification, et dans le temps, selon vous, ça va durer?
Oui, honnêtement, oui, je pense. Oui, hier à la manifestation, j'ai vu les images de Paris. Très honnêtement, à Lyon, ça avait concrètement rien à voir. Enfin, c'était c'était bien encadré, quoi, et plutôt calme.
Il y a eu la violence aussi à Nantes, à Rennes et pas qu'à Paris. On est beaucoup focalisé sur Paris. C'était très chaud à Nantes,
Bordeaux, Lorient,
à Bordeaux aussi. Donc, c'est pas un phénomène que parisien, la violence. Les casseurs étaient dans plusieurs.
Allez-y, villes. Romain.
Oui, bien sûr. Et moi, c'est là-dessus, j'appelais principalement, en fait, pour dire quand même quelque chose et faire aussi un petit rappel. Enfin, moi, ce qui est fatigant, en tout cas, c'est que moi, dans mon métier, en tout cas au quotidien, le manque de moyens qui s'est vu au gré des années, on l'a tous observé, ça s'est mis un peu sous le feu de la rampe pendant le Covid. En fait, moi, c'est ça que j'observe. Le problème, même si je ne tolère pas tout ce qui est de nature, les casses, etc., moi, il y a un moment donné, il faut quand même se dire, je vous prends un exemple très concret, si à l'hôpital on veut se mettre en grève, en fait on peut pas, on est réquisitionné. Et si on a cette fâcheuse tendance à un peu hausser le ton, déjà on est mal vu par notre hiérarchie au niveau local, et au niveau supérieur, on se fait réquisitionner par le préfet parce qu'on est une mission. Le problème étant, c'est qu'à un moment donné, moi je... sans pour autant les cautionner, moi je comprends les gens qui se mettent en colère. Je parle pas de ceux qui ont agressé les policiers, ça c'est complètement...
Cette colère qui monte, qui ne cesse de monter, c'est ce que vous voulez dire.
La question maintenant est de savoir c'est comment on va en sortir, parce qu'on peut pas se permettre d'avoir comme ça pendant des semaines et des semaines un pays bloqué, des tensions. Laurent Berger, ce qui est intéressant, c'est que l'intersyndicale n'est pas tout à fait d'accord entre elles, parce que la CGT est sur le retrait. Laurent Berger lui dit il faut faire une pause. Il a proposé de mettre sur pause pour 6 mois la réforme des retraites.
Pas mal.
Est-ce que Étienne c'est mettre sur pause?
Oui, moi je pense qu'effectivement il faut que, mais je pense que c'est là que je comprends pas le président de la République, qui est un type qui a priori avait un sens politique. Là il est, et je pense qu'il aurait dû, ou alors il est vraiment naze, parce que il aurait dû franchement, ou il pourrait encore effectivement dire je vois que ça remue, que donc on a été très mauvais pédagogiquement, notre projet est bon mais il n'a pas été compris, Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur pause, effectivement, pour calmer tout le monde, et qu'on va repartir dans des discussions pour avant les décrets d'application. Moi, je pense qu'effectivement, il a cette chance de pouvoir le faire encore, et ça peut sauver et une partie de son projet, et sauver
oui,
un peu le pays.
Il donne à penser qu'il y a urgence.
On s'en fout, c'est vis-à-vis de l'extérieur.
À montrer à l'extérieur, à ceux qui nous prêtent chaque jour de l'argent, qu'on est capable de réformer.
Merci, les taux d'intérêt ont diminué. D'ailleurs, c'est très marrant, parce que si jamais quelqu'un revenait sur ce projet dans 3 ans, 4 ans, comme certains l'ont promis, ce serait une grillade.
Ceux qui disent ça, je rappellerai toujours que les intérêts de la dette, c'est le deuxième budget de l'État après l'éducation nationale. C'est-à-dire que l'argent qu'on donne simplement pour rembourser les intérêts, c'est de l'argent qui pourrait nous servir pour les infirmiers et pour autre chose. Voilà.
Je rappelle que
ça part simplement pour payer les intérêts.
François Hollande, quand il est arrivé au pouvoir, il n'est pas revenu sur la réforme Fillon et les 62 ans. Hein. Et qu'ils ont fait la réforme Tourelle à 43 annuités aussi.
Oui, parce que là, c'est l'hypocrisie des socialistes.
Et du FSC,
ce qui, de toute manière, nous fera tous bosser à 64 ans et au-delà, c'est les 43 ans d'annuité. En tout cas, pour tous ceux qui ont fait des études. Et ça, c'est quand même une majorité de gauche qui l'a voté.
Tu vois, on est d'accord. Parce qu'après, quand t'as fait des études,
c'est factuel. Je dis factuellement.
C'est factuel parce que quand t'as fait des études, c'est qu'a priori, tu vas mieux gagner ta vie.
Oui.
Si tu gagnes ta vie, c'est pas grave. Si tu pars à 67 ou à 68 ans, tu as de meilleures conditions. Attends, je termine. Tu as de meilleures conditions. Tu as de meilleures conditions sociales. Tu voyages un peu, tu manges mieux, boulot, tu t'alimentes mieux, tu te poses pas la question, et ça m'est arrivé quand j'étais môme, tu te poses pas la question d'aller voir le médecin si t'as l'argent ou pas. Si t'es pas bien, tu vas le voir. Donc tu as une meilleure hygiène de vie.
Mais pourtant, on voit des étudiants dans la rue. Des étudiants qui vont commencer à travailler très tard et qui sont contre 64.
Olivier, justement, là, j'ai fait une conférence avec des jeunes qui sont des futurs scientifiques sur les politiques sanitaires et sociales. Écoute, il y a un taux de chômage entre 18 et 25 ans qui est énorme. Et je peux t'assurer que les jeunes, parce que moi, ils me racontent, je peux t'assurer qu'ils vont continuer de descendre.
Comment? On embauche, qu'ils viennent, on les recrute.
Non, attends.
C'est pas parce que tu démarres entre 18 et 25 ans.
Tu sais très bien qu'il y a des tas de métiers qui vont disparaître, y compris maintenant des métiers intellectuels. Compris les médecins, y compris les kinés, tous les gens seront remplaçables.
Quand tu es dans un secteur qui est bouché, tu peux aussi, quand t'as entre 18 et 25 ans, je suis désolé, tu peux aller travailler. Il y a plein d'artisans, on les a tout le temps au GG, qui recrutent, qui n'arrivent pas à recruter. Va bosser le temps que tu trouves un emploi qui est dans ton secteur.
Attends, les jeunes que je vois, par exemple.
Mais envoie-les-moi, on les recrute, non?
Écoute, je vais t'envoyer quelqu'un, tombe bien, tiens. Il y a une femme que je suis depuis 2 ans. Personne n'en veut. Elle est prête à faire du ménage.
Je
préviens, si tu le fais pas,
Tu peux m'allumer. Alors là, je vais te dire un truc.
Olivier.
À chaque fois que j'ai dit que j'ai appelé un auditeur, y compris quand je me suis engagé sur des lots, etc., j'ai toujours respecté ma parole, Elina.
En même temps, alors, regain de mobilisation.
J'ai toujours respecté ma parole.
Est-ce que ça va durer, oui ou non? C'est la question qu'on a posée. Je remercie Romain d'avoir été avec nous. Est-ce que ça va durer? Regardez, c'est un oui à 80%. 80% pour les près de 2000 personnes qui ont écouté.
Donc Macron trouve une solution intelligente là.
Ce que propose Laurent Berger de faire une pause de 6 mois, la CFTC dit oui, bonne idée, t'as déjà deux syndicats
c'est honnête,
qui sont là-dessus.
Ça permet de sortir la tête
haute. Hier, vous avez quand même
traité. Tu fais une pause, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu remets ensuite dans 6 mois la réforme?
Ça veut dire qu'on va.
La pause, ça sent l'abandon.
Non, parce que c'est pas sûr que tu calmes le pays, parce que derrière, les gens peuvent se dire au contraire, faut continuer, parce que de la pause, on va au retrait.
Ça peut calmer dans un premier temps le pays, mais dans six mois, tu reviens, je remets la réforme.
Je tiens à préciser que Emmanuel Macron l'a faite, la pause. Lorsqu'il a pris la parole.
Mensonges.
Je terminais. Quand il a pris la parole, il n'a pas promulgué la loi. Il aurait pu le faire.
On verra si la promulgue, dans un instant, suite des GG avec l'on s'en fout pas, et tout à l'heure à 10h, la violence, ce regain de violence. Qu'en dites-vous? Est-ce que, justement, on franchit un cap? Est-ce que ça peut poser des problèmes pour les prochaines mobilisations? Que pensez de cette violence? Peut-être y avez-vous participé, c'est bon de dire au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story des grandes gueules. Aujourd'hui avec le restaurateur Stéphane Manigold, c'est Étienne Nibig, éducateur, qui nous accompagne, avec Elina Dumont, intervenante sociale. Il est 10h moins le quart de la violence, on en parlera tout à l'heure avec vous au 32-16, dans les villes où ça a tapé fort, Paris bien sûr, mais on a eu Bordeaux, on a eu Rouen, on a eu Nantes, on a eu Rennes, donc venez témoigner avec nous au 32-16. En attendant, c'est le on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec Anaïs Sainz, bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Les carburants, les pénuries se multiplient. Toujours très compliqué de faire le plein dans le sud-est de la France, mais aussi l'ouest de la France. Et ce matin, déblocage par les forces de l'ordre de la plus grande raffinerie de France, celle de Gonfreville, qui alimente notamment l'Île-de-France et les aéroports parisiens. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Stéphane? Allez.
Ouais, c'est pas forcément l'actualité qui me passionne.
Bon, ok, donc tu t'en fous, ouais. Étienne.
Bah non, on s'en fout pas.
Elina.
Bah moi, je m'en fous.
Bon, Étienne. Alors Étienne.
Bah non, on s'en fout pas parce qu'en fait, il y a très peu de. On réfléchit souvent à l'utilité des manifestations, on réfléchit à l'utilité des grèves. Il y a très peu, en fait, de professionnels aujourd'hui qui sont indispensables au pays. Et effectivement, la distribution de carburant, c'est un indispensable du pays. Donc, il y a là un bras de fer qui se joue. Et soit on soutient ces gens et on est prêt à faire le sacrifice de son propre confort. Et c'est toujours la question qui est remise en cause dans une lutte. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à annuler son transport? Est-ce qu'on est prêt à ne plus avoir le confort habituel? Et on soutient ces grévistes. Soit alors, il faut pas venir nous raconter qu'on est partant dans la lutte. Si on est pour
ça n'a pas les mêmes conséquences pour tout le monde.
Mais ça a des conséquences pour tout le monde quand même. Même si c'est pas les mêmes.
Ça
a des conséquences quand même. Même si c'est pas les mêmes pour tout le monde, ça a quand même des conséquences.
Mais je note quand même qu'Anaïs, elle s'habille en pompiste pour nous parler de ça. Hein.
Oui, j'ai une combinaison pour les auditeurs.
Donc en fait, c'est en fonction de l'actualité. Ton choix de. D'accord, ok. C'est une bonne idée.
Les GG, tous les yeux seront rivés aussi ce week-end vers Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Nouveau week-end de mobilisation autour des projets de méga bassines. Jusqu'à 10 000 manifestants, dont 1000 radicaux attendus dès aujourd'hui selon les renseignements. J'ai dit dans les Deux-Sèvres. À l'automne. J'ai dit quoi ? Non ?
Vas-y.
À l'automne dernier, on se souvient des violences sur le site entre gendarmes et manifestants. Donc, est-ce qu'on s'en fout ou pas de cette nouvelle manifestation, Étienne ?
Non, on s'en fout pas.
Elina ?
Bah non, là, je m'en fous pas.
Stéphane ?
Non.
Étienne ?
On s'en fout pas parce que en fait j'ai essayé de lire, alors j'ai lu des tonnes et des tonnes de textes sur ce sujet et j'arrive pas à me faire une idée parce que c'est vraiment des oppositions fondamentaux sur la question de l'écologie, de l'utilité de ces bassines. Certains les défendent pour les agriculteurs, mais on sait que l'agriculture c'est 80% de l'utilisation de l'eau en France, donc c'est quand même un problème sur les choix agricoles que nous avons fait et donc on est en train de revenir dessus d'ailleurs et ensuite les d'autres, quand même, des gens qui sont pas des idiots du côté des écologistes, disent non seulement ça sert pas à grand chose, mais en plus c'est pourri sur le plan du respect du système hydrographique, donc hydrologique. Donc je me pose vraiment des questions.
Ouais, 3200 gendarmes et policiers mobilisés.
Non, mais moi j'ai rien contre les bassines, mais moi par contre je suis le coup. C'est la fin qui me fait peur. Attends, s'il y a encore des violences avec les radicaux et tout. Ah non, mais attends, moi.
Il y aura des violences.
Non, mais attends.
Parce qu'il y en a beaucoup d'extrême gauche qui viennent pour ça.
C'est ça, en fait, qu'on peut pas accepter et qu'il faut condamner. Hein. On peut pas accepter. C'est pour ça que je m'en fous pas. On peut pas accepter que lorsque tu mènes un combat aussi important, noble, tout ce qu'on veut qu'il soit, que dans une démocratie il y ait de la violence. Ça, franchement, c'est insupportable. Tu ne peux pas mener des combats avec la violence. Vraiment, c'est condamnable et sans.
Et si Sébastien Lecornu, les GG, était le sauveur? La rumeur enfle, l'actuel ministre des Armées pourrait être la solution pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon, même si pour l'instant il n'en est pas question. Lecornu, l'homme de la situation, peut-être, est-ce qu'on s'en fout ou pas, Étienne?
Déjà, est-ce que vous connaissez Sébastien Lecornu?
Ben écoute, je ne vous cache pas que j'ai été sur Internet, regarde, parce que maintenant que je vois sa tête, je vois.
Est-ce que tu sais ce qu'il fait?
Non.
Il ministre des Armées.
Armée.
Ah d'accord.
Oui.
Non, mais je connais bien le ministre de l'Intérieur, par contre.
Oui.
Non, on s'en fout pas, les GG.
Écoute, pour moi, ça va rien changer. Donc
tu t'en fous.
Ouais, je m'en fous.
Stéphane.
Non, j'en fous pas.
Étienne.
Étienne. Je m'en fous pas.
Stéphane.
On s'en fout pas parce que c'est pas le seul premier ministrable. tu as une liste conséquente. Alors, tu t'as posé la bonne question. Est-ce que quelqu'un le connaît, le Cornu? C'est vrai qu'il est pas très connu du grand public. Est-ce qu'il est efficace?
Des armées, hein.
Est-ce qu'il est efficace? J'en sais rien. Mais des premiers ministres, t'en as une palanquée de listes au niveau du gouvernement.
Enfin, pas beaucoup. Gérald Darmanin. Y aller, hein.
Ils veulent tous y aller.
Je vais vous donner même un scoop. T'as potentiellement Éric Ciotti, hein, parce qu'il fait partie de chef de l'opposition, même si c'est le bordel. Il est potentiellement premier ministrable. Donc tu vois, la liste elle est longue sur les premiers ministrables. Ce qui est intéressant en fait, c'est quel projet ils peuvent avoir réellement pour rassembler le pays, pour que la machine reparte, que les inégalités cessent ou en tout cas se réduisent, et que Emmanuel Macron puisse devenir non plus le président des gens qui vont bien, mais à un moment aussi le président de tout le monde, y compris de ceux qui vont pas bien.
Tu veux un changement de premier ministre, toi?
Personne ne croit un instant qu'un changement de premier ministre changera quelque chose. On voit bien qu'en réalité, on voit bien que c'est ailleurs que ça se passe. Nous avons un président de la République qui domine la situation. On voit bien que Madame Borne, il l'a mis dans une forme d'impasse. La pauvre Madame Borne, retrouve coincée. Je pense qu'elle n'est pas dans une, elle n'est pas à l'aise avec ce qu'elle est en train de faire.
Elle n'est pas à l'aise, elle démissionne.
Elle n'est pas à l'aise. Il y a aussi, je vais t'expliquer un truc que tu connais peut-être pas, c'est l'engagement.
C'est une soldat.
Tu sais, quand tu t'engages, tu te dis, bon, je fais le sacrifice de moi-même, je m'engage dans un mouvement, je m'engage dans quelque chose. À un moment, automatiquement, tu vas être obligé d'avaler des couleuvres. Alors, soit tu déménages aux trois premiers jours, comme l'avaient fait certains ministres, en disant, mais là, c'est n'importe quoi, on est en train de m'entraîner dans un truc, tu te barres. Soit si tu te barres pas, tu es obligé d'aller jusqu'au bout, parce que sinon, c'est de la lâcheté.
En revanche, quand tu as échoué, tu dois partir.
Et là, écoute, mais en même temps, ça ne changera rien, un changement de ministre. Tout le monde le sait très bien.
Dans ce cas-là, on fait quoi? On se jette tous dans la Seine, on oublie la politique, on ferme les yeux, on attend 2027. Mais non, je veux dire, on peut pas guider un pays. Et c'est le problème, en fait, des manifestations actuelles. On a voté il y a moins d'un, deux fois. La présidentielle, il est passé parce qu'il était face à Marine Le Pen. Oui, mais en attendant, il y avait que deux personnes au second tour. C'était Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc je veux bien que tout le monde. À un moment, il faut aussi respecter le peuple.
Mais oui.
Il y a les opposants politiques. Et puis il y a aussi des gens qui ont voté pour lui, ça, et ils sont respectables.
Mais on n'a pas voté pour Madame Le Pen. Pour Madame Borne.
Non.
C'est pas
pour
nous qui avons voté.
Ceux qui sont devant RMC Story. Retenez bien le visage de cette.
Vous allez le voir de plus en plus.
Sébastien Lecornu, c'est peut-être lui qui d'ici quelques semaines prendra en main les destinées de la France.
Je mettrai pas beaucoup d'argent.
Rue de Varenne à l'hôtel de Matignon.
Tu mets pas beaucoup d'argent.
Moi, je mets pas beaucoup d'argent.
Il a presque le charisme d'Olivier Dussopt.
Je mettrai plus un peu d'argent sur Julien de Normandie. Je mettrai un peu plus d'argent sur Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. Voilà mon trio.
Mais tu sais, dans ce cas-là, pour gagner de l'argent, il faut jouer la grosse cote.
Allez, viens, on joue.
Allez, je joue de Lecornu, moi.
Moi, je joue pas. Je regardais sur les réseaux sociaux, on commence à le surnommer l'incornu du gouvernement. Ça commence bien, déjà.
Je vote pour Monsieur Dussopt, qui a pratiquement autant de cartes que Lecornu.
Et une belle cote de popularité.
Monsieur Dussopt. J'aimerais en faire un ami.
Dans un instant, violence, on a franchi un cap. Est-ce que ça peut décrédibiliser le mouvement social? 32-16 pour venir en discuter avec les GG.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.